Bienvenue dans le podcast d'Anastasis. Cette série est consacrée au Festival des Poussières qui a eu lieu cet été, du 25 au 27 août, dans le éco-hameau de Goshen. Et nous rediffusons les tables rondes et conférences du festival. Et maintenant, nous écoutons Marcello Tari, chercheur indépendant italien, que Paul va nous présenter plus longuement, nous parler des liens entre le christianisme et le geste politique de la destitution.
Bon, on va commencer la conférence de Marcello. Donc on est vraiment très heureux, même joyeux de l'accueillir au Festival des Poussières. C'est la première fois en fait qu'on se rencontre avec Marcello. On s'est surtout connu par échange de mails, parce qu'il nous a écrit après quand on a écrit avec Foucault et Anne La Communion qui vient. Il a même failli être le traducteur en italien de La Communion qui vient, mais hélas ça n'a pas fonctionné parce que des histoires de maison d'édition. Mais voilà, on est très, très heureux parce qu'évidemment on avait déjà lu certains de ses textes, par exemple son livre sur l'autonomie italienne qui est publié à La Fabrique. Et depuis on a même lu un livre que je vous recommande vivement qui s'appelle « Il n'y a pas de révolution malheureuse ». Donc vraiment prendre un poncif de la théorie contre-révolutionnaire à rebrousse-poil avec une affirmation vraiment voilà, magnifique. Donc c'est un livre sur le communisme de la destitution. Donc c'est la notion qu'on va travailler aujourd'hui. Marcello est italien, il habite à Rome c'est un chercheur indépendant qui s'intéresse donc à l'autonomie politique, en particulier à l'autonomie italienne des années 70, et qui depuis quelques années, il me dira peut-être précisément depuis quand, peut-être qu'on en parlera après, s'intéresse à la relation qu'il peut y avoir entre la spiritualité et la politique, et plus précisément entre la forme de vie chrétienne, c'est-à-dire chrétien, ça veut dire messianique, entre la forme de vie messianique et l'engagement politique révolutionnaire. Et donc, évidemment, voilà, à Anastasis, on est un peu parcouru par ces problématiques. Donc, ça nous intéressait fortement de l'entendre et surtout de l'entendre sur ce concept central, s'il peut y avoir un centre dans ce genre de théorie, qui est le concept de destitution. On va essayer de comprendre ensemble ce que ça veut dire destituer, quelle sorte de geste révolutionnaire se cache derrière ce mot de destituer, contre quelle autre sorte de geste politique en général et quelle sorte de geste soi-disant révolutionnaire la destitution s'oppose-t-elle. Il faut noter que cette réflexion qu'il a eue sur cette articulation entre spiritualité et politique, il l'a eue notamment avec une très grande figure de la gauche italienne, même de l'opéraïsme italien, qui s'appelle Mario Tronti, qui est décédé très très récemment, et qui a vraiment nourri leur amitié. Et enfin, je pense qu'un des fruits, j'espère, de cette conférence, c'est aussi que on découvre mieux ce penseur qu'était Mario Tronti. Donc je lui cède la parole. Il nous a préparé, vraiment, je le remercie. Un texte de 40-45 minutes, et ensuite on discutera ensemble. Donc vous pourrez poser les questions qu'on essaiera de faire de la manière la plus respectueuse de chacun possible, c'est-à-dire voilà, essayer d'être le plus paritaire possible, essayer qu'il n'y ait pas un type de personnes qui prennent plus la place que d'autres. C'est assez important. Donc je lui laisse la parole, et encore une fois, je dis qu'on a beaucoup de joie à l'écouter ici.
Bonsoir. Et d'abord, je voudrais, et pas pour mon sentiment de bonne éducation, remercier Anastasis, remercier Goshen, remercier vous tous pour être là. Que vous savez, moi, nous, sommes toujours en cherche, non, de voir, toucher, vivre, non, cette étincelle de royaume qui doit toujours venir. Nous, à la fois, dans les quotidiennes, on rencontre, non, les petits gestes, les partages, les petites œuvres de charité, les petites paroles d'amour. Et se prend la joie et la peine d'organiser une rencontre, non, des poussières comme ça. C'est un grand geste d'amour et une déclaration de liberté. Envers le monde, envers nous-mêmes aussi. Et donc merci pour l'amour et merci pour la liberté. La destitution. Je ne sais pas si combien de gens ont une idée de qu'est-ce qui parle quand on dit destitution. C'est en question. Ouais. C'est pas mal. Pour moi, avoir fait avec une idée, disons, de la soeur qui est encore dans sa jeunesse, c'est quelque chose d'intéressant, non? Que c'est une idée relativement nouveau. Relativement, comme je vais à dire. Et cette idée, ce concept, effectivement, comment est venu à nous, parce que c'est pas seulement moi, que moi et des amis avons commencé, disons, vers 2010, à penser, raisonner sur ce concept. Pourquoi nous... s'agissait d'une tentative de réponse en crise. Une crise de sens à nous. Mais la crise, je pense, est toujours une bonne chose, enfin. Et la question, disons, était toujours que nous voyons, disons, une grande insuffisance éthique aussi dans les concepts et les pratiques que nous avons reçus en héritage de la tradition révolutionnaire. Et peut-être que cette insuffisance, c'est notre hypothèse, peut-être qu'il y a une limite antérieure depuis les origines même, non, des mouvements révolutionnaires de la modernité. En fait, destitution, non, l'appelle constitution. Alors, si nous remontons à l'origine de la pensée révolutionnaire moderne, et donc qui s'est formée sur la base de la Révolution française, et donc de toute pensée révolutionnaire occidentale, il y a un livre de Jean-Claude Milner, Relire la Révolution, qui est très, très bon sur le sujet. Et nous découvrons en fait que c'est le pouvoir dit constituant, qui est théorisé de l'abbé Sieyès, qui a toujours connu, disons, l'avant-scène. Et c'est-à-dire quoi, le pouvoir destituant? C'est-à-dire, en dernier ressort, un pouvoir d'exception, dans lequel devient centrale la lutte à mort pour l'appropriation du pouvoir qui préside à la constitution, l'établissement, à la conservation de l'État. Et donc, le sujet de ces pouvoirs peut être un peuple, une classe, un souverain et aussi un dictateur. Disons que les sujets sont différents, mais la structure, c'est la même. Dans le cas de la destitution, disons que la différence avec ce concept hégémonique des révolutions devrait être d'abord qu'il s'agit de penser une action capable de s'attaquer pour les anéantir, a les fondements même du pouvoir, les archaï, non, en grec. Et pas seulement dans ces aspects extérieurs, non, par exemple, destituer un président, destituer un gouvernement, destituer une institution. Les fondements. Et les fondements, j'ai dit, sont dans les esprits. Et donc, il ne suffit pas de changer les dirigeants, ça c'est une évidence, mais il ne suffit pas non plus de changer les structures, non, techniques, politiques, économiques, si au même temps il y a une mise en crise et une transformation des esprits. Et ça c'est pourquoi l'institution est un concept de crise. Même voir les choses comme on lutte au son de la loi, en fond, c'est externaliser un conflit qui est interne à l'esprit et qui déborde sur l'extérieur. On se souvient les mots de Jésus, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Le problème est que toutes les révolutions du passé ont fait le contraire. Que tous les efforts ont été consacrés aux structures extérieures en pensant qu'elles sont elles qui pouvons produire, ça c'est la mot, produire l'homme nouveau. Et donc, le futur présupposé l'importe sur le présent, sur le passé et sur l'avenir. Et la réforme des formes de vie est reportée sine die. Je trouve que c'est une idée qui est un peu gnostique, un peu pélagène, et qui n'a jamais disparu, effectivement, encore aujourd'hui. Par exemple, il y a une chose que des amis, des bons amis, ont dit, au moins pour le moment, à savoir que parce que les pouvoirs demeurent dans la structure logistique du monde, non, dans l'infrastructure du monde, alors la révolution est une question technique. Ça, c'est un titre d'un article qui est sorti en 2020 sur lundi matin. Bien sûr qu'il y a du pouvoir dans les machines, dans la logistique, dans l'architecture, mais pas sur le fondement. Le pouvoir est diffus, non, disait Foucault, et il avait raison, mais n'est pas seulement au dehors de nous. Et les camarades ne sont pas des purs, des perfects. Même si ça, c'est une tentation qu'il y a toujours. Non, et c'est c'est penser comme, disons, les perfects en face, non, d'un pouvoir corrompu. Et mais la question, simplement, c'est que les pouvoirs, la domination, l'oppression habitent les notre esprit. Et déjà, Saint Augustin savait que l'Église même, non, mais c'est une réalité permixta, il disait, des biens et des mal. Et alors, je dirais, en ce sens, que d'abord, la révolution est une question spirituelle. Ensuite, vient tout le reste. Cette idée, disons, de la destitution du pouvoir destituant, de la puissance destituante, m'était suggérée à l'époque par un tétrienne qui est Mario Tronti, a fait en 2008, intitulé sur les pouvoirs destituants. Et Tronti disait, disons, dans les débuts, qu'il posait la question, disons, essentielle, c'est-à-dire la crise du sujet moderne, et parce que la modernité a toujours fonctionné dans la dialectique projet-sujet, et les projets est logiquement pensé comme constituante, c'est comme les sujets et constituantes, non, dans l'idée kantienne. Et donc ça signifie la crise du pouvoir constituante, donc crise de la politique. Et Tronte a déjà écrit les années 90 un livre très important qui s'appelle La politique au crépuscule, où il disait que l'ère de la politique, de la politique, est terminé en tant que possibilité, disons, d'un changement radical. Et reste, elle, seulement en tant que gestion de l'existante et à la limite, comme possibilité, non, de retarder un peu le plus possible, non, les catastrophes. Disons, la politique comme un tout petit catéchisme. Et ça, c'est pourquoi Trump a commencé à penser en temps de révolte éthique plutôt que politique. Parce que les révoltes éthiques permettent la considération d'un aspect, disons, anthropologique qui contient et dépasse, non, la politique. Et que le marxisme n'aurait jamais été capable de développer. Et donc, la question, c'était de penser à une anthropologie et à une spiritualité capable de se confronter à un capitalisme désormais devenu totalité, c'est-à-dire monde. Et quand je dis monde, je veux dire pas la création, monde comme système de domination, système de pouvoir, comme est dit dans l'évangile de Jean et dans l'épître de Saint Paul. Donc, c'est monde. Et donc, disait Trump dans l'entretien, la priorité n'est pas tant le projet de construction de quelque chose, mais la destitution de ce qui existe, c'est-à-dire du monde. Une force qui dissout les pouvoirs régnants sans mettre à sa place un autre monstre similaire. Et nous pouvons dire également, passe la figure de ce monde, les royaumes viennent. Il faut bien dire que beaucoup de gens oublient de les faire quand il s'agit de faire cette petite généalogie, que Trump, évidemment, a une sympathie pour la destitution. Mais en même temps, comme nous sommes des êtres historiques, il disait qu'il faut instituer quelque chose, donner une forme avec de l'autorité. Autorité, que c'est une chose différente du pouvoir, de la domination. Et donc, il disait qu'il faut jouer l'autoritas contre la potestas, non, l'autorité contre le pouvoir. Et cette idée de l'autorité contre le pouvoir venait à Trump effectivement de la pensée féministe de la différence, c'est une courante du féminisme italien des années 80. Et donc la forme. Et la forme en politique, effectivement, normalement, s'appelle institution. Et donc la proposition de penser une institution destituante, hein, comme esquissée dans la communion qui vient, me semble très prometteuse. Il faudrait y travailler davantage. Même si je pense avec beaucoup de prudence, j'ai toujours des doutes quand il s'agit de transférer, non, des réalités théologiques, parce que même dans la communion qui vient, l'institution des citoyens, c'est l'Église. Donc, des réalités théologiques à la sphère profane. Que nous avons déjà, non, des essais, l'exemple criant de la théologie politique schmittienne, par exemple, ou la théologie politique poutinienne aujourd'hui. Il y a bien, non, la théologie politique de Poutine. Et pourtant, il faut essayer. Il y a la définition donnée par Trump en s'inspirant d'un Magnificat. Ils disent « Renverser les puissances, élever les humbles. » Voici les théologiques. Comment renverser les puissances et comment élever les humbles? Voici les politiques. Et à bien regarder ici, théologie et politique ne sont pas unifiées a priori. Non, la question donc est de savoir s'ils sont vraiment réellement unifiables. Dans quelle mesure, comment faire? Car notamment, dans le cas de la théologie politique, le politique dévore les théologiques. En toute façon, il s'agit de faire de la politique et de la théologie. Et à propos de la politique, je suis un peu consciente que pour sembler un peu tranchante, mais dans les derniers temps, je suis venu à penser de plus en plus que toute politique, n'importe quelle politique, enfin aboutit à un nihilisme. qui est au fond de toute politique moderne, disons depuis Machiavel, hein, c'est immanentiste, tendanciellement athéiste, et donc déjà la lieu est signée. Et c'est pourquoi c'est les discours sur la théologie et la politique importants parce qu'ils permettent de saisir les liens entre la politique et la transcendance. Et je dis un nihilisme parce qu'il représente, il y a plusieurs nihilismes. Il y a un nihilisme libéral, il y a un nihilisme conservateur, il y a un nihilisme de droite, de gauche, technophile, primitiviste, comme vous voulez. Que notre époque est celle du nihilisme et de l'individualisme, quand ensemble, on a formé un dispositif. Et donc, je ne veux pas dire voilà, qu'il ne faut pas plus agir sur le plan politique, pas du tout. Et peut-être qu'on pincée du nihilisme, peut-être que c'est nécessaire en face du monde, non, comme il est. Mais je veux dire que signifie être conscient du danger, non, et s'arrêter au moins un instant avant de la catastrophe. Et je parle des catastrophes de l'humain que la politique porte toujours avec soi, non, catastrophe de l'humain, de les relations, des vies, et sont une catastrophe qui arrive, qui est toujours arrivée, disons, dans les grandes et les petites expérimentations révolutionnaires. En fait, pour ce que je pense, en ce qui me concerne, dans cette recherche, je écris sur ce livre. Pardonnez l'autocitation, mais tant que nous ne comprenons pas que les moments où chaque vie éprouve en elle-même, sur elle-même, une puissance décisive et les moments décisifs peuvent tout devenir révolutionnaire, nous continuons à tourner autour d'un vrai problème avec des faux discours et des faux pratiques. En termes chrétiens, je dirais que ce moment a un nom. Il s'appelle métanoïa en grec. Non, c'est-à-dire conversion. Et la conversion, c'est aussi la destitution de notre très, très, très chère identité individuelle, qui sont attachées à la chair. Ce ne sont pas des choses non simplement extérieures, une robe. Et il y a Pape François qui a écrit une très belle lettre au cardinal Marx, et il dit « Toute réforme commence par soi-même. Nous pouvons mettre toutes les révolutions, toutes les insurrections, commence par soi-même. Autre monde, nous ne serons rien d'autre que des idéologues de la réforme qui ne mettent pas en jeu leur propre chair. » Et donc, vivre dans la propre chair, sa puissance, celle ainsi, a dépassé l'idée de la destitution en tant que super concept philosophique. Nouvelle doctrine et nouvelle idéologie, non, académisme, non, académisme radical, qui sont toutes des choses qui sont toutes déjà là. Et donc, dépasser l'idée pour se plonger dans la réalité de la vie. Non, d'autre côté, non, c'est pas François qui a dit Evangelii Gaudium, non, la réalité est toujours supérieure à l'idée. Et donc, je dois dire que c'est un aspect ça, qui a beaucoup de mal dans ma expérience à être complice. Mais justement, c'est en rapport à cette double moment, c'est un double moment destituant antérieur, extérieur, que l'Évangile contient des indications essentielles, à mon avis. Que Jésus, avant de destituer la mort, que la résurrection, on peut dire que l'archétype non, de toute destitution possible, sans doute a réalisé pendant sa vie à prédication la destitution de nombreuses lois, non, normes. Mais en même temps, il y a aussi nombreuses injonctions de Jésus sur la nécessité de destituer la notre identité sociale et même existentielle. Non? Perdre notre vie. Que signifie? Et je pense que la force des citoyens découle de là, non? De cette perte. Il y a là quelque chose de kénotique. Cet matin, on parlait non, de la création non, des dieux comme un acte kénotique. En bref, il n'y a pas de suite, non, des séquelles possibles si on ne passe pas par la destitution de notre identité existentielle. Et d'autre côté, pauvreté, chasteté, obédience, non, les conseils évangéliques, enfants, sont des formes de destitution, non, sont destituées toutes les formes de possession du pouvoir qui sont enchaînées de notre moi. L'ego, le moi, par contre, non seulement nous maintient liés à ces mondes, mais le constitue, le reproduit, le conserve, parce que personne vive seulement de manière passive. Et c'est les réseaux, non, les pouvoirs diffusent, les réseaux qu'on possède à toute notre identité, de notre moi, non, que c'est est la plus grande puissance constituante de ce monde. Et alors, où la destitution du monde est contemporaine à la destitution de moi, on n'y a pas vraie destitution. Ça, c'est mon idée. Et par conséquent, la première activité révolutionnaire consisterait à mettre donc, en crise les identités, donc à conversion des esprits. Et ensuite, le défi est celui de penser des fondations qui soient en même temps antérieures, extérieures. Et ça, je pense que peut-être c'est la manière d'unifier non, les théologiques et les politiques, c'est-à-dire spirituellement. C'est le communisme des esprits dehors de l'Erlin. L'alternative, c'est justement c'est de révolutionner les structures en quittant les esprits en changé, ce qui implique, plutôt que tard, le retour de toutes les dynamiques de la domination de la violence. Et à propos des violences, nous pouvons situer, disons, plutôt précisément l'origine de ces concepts de destitution en 1921 avec l'essai de Walter Benjamin sur critique Das Gewalt, pour la critique de la violence, où a apparu le mot Entsetzung en Allemagne, qui signifie destitution. Pour la critique de la violence, il y a la traduction plutôt nouveau en français de Alia, qui est très bien parce qu'elle conserve les pour. Je n'ai jamais compris parce que les traductions qui existaient avant, la critique de la violence. Parce que le pour, c'est très important, parce qu'il indique le fait que c'est une hypothèse sur laquelle Benjamin travaillait dans ces années-là, de la jeunesse, et qui a travaillé jusqu'à la fin de la vie. Donc, une hypothèse de recherche, que c'est à nous de continuer. Et l'édition Alia fait aussi un geste intelligent, parce qu'elle couple l'essai sur la violence avec un autre très court écrit de la même période qui s'appelle « Les fragments théologico-politiques » qui est, disons, fonctionne comme éclair, disons, l'essai sur la violence non, d'une lumière eschatologique et messianique très importante. Et un essai, disons, pas facile à lire, mais tout d'abord, je pense qu'en précision s'impose qu'il s'agit ici d'une critique de la violence. Non, il n'y a pas exaltation de la violence, sinon ça aurait été les titres, je ne sais pas, pour la violence révolutionnaire, quelque chose comme ça. Okay, le but de Benjamin, en fait, c'est la destitution de la violence comme moyen des rapports entre les hommes qui prélude à la domination de l'homme sur l'homme. Et ça, c'est un aspect de la critique destituante de la violence qui me semble souvent négligé. Et cette négligence, évidemment, donne lieu à des graves malentendus. Il est suffisant de penser à la lecture qu'ont fait les militantes de la RAF au début de l'an 70 en Allemagne. Alors, Bénin pose une direction de recherche, soit que pour mener sérieusement une critique de la violence, il faut se référer au rapport que la violence entretient avec les droits et la justice, qui sont pour Bénin deux sphères opposées. Dans le sens que les droits, c'est les produits et les reproducteurs de l'histoire violente des hommes, et la justice relève la sphère du divin. Et enfin, si nous pensons à la confrontation entre Jésus et Pilate, je pense qu'elle montre de façon dramatique, non, l'hétérogénéité des droits et la justice. La justice, dira Benjamin dans notre écrit, est un état du monde, et donc on peut être objectivé dans les droits. Et si c'est un état du monde, je pense, alors la justice est une question de rédemption de l'histoire. Donc, pour Benjamin, il y a une violence qui pose les droits, c'est la violence constituante, qui peut aussi être révolutionnaire, et qu'il appelle aussi la violence mythique. Le mythe en Benjamin est toujours l'adversaire spirituel qui doit être détruit. Mais aussi une violence qui conserve les droits. Non, c'est la violence des appareils du gouvernement, c'est la police, c'est les tribunaux, etc. Et qui repose sur une idée de la culpabilité infinie de l'humanité. Mais, disait Benjamin, en s'inspirant de la Bible, non, c'est la Bible contre les mythes. Existe une autre violence divine qui dépose les droits, qui est expiatoire, qui détruit les péchés et donc la culpabilité, qui est pure parce qu'elle n'utilise pas les moyens pour l'enfant qui est extérieur, donc est immédiate. Et c'est aussi une violence qui a anéanti mais sans verser les sangs. Il y a toute une discussion que Benjamin fait autour de la 5e commandement, non, sur l'interdiction de tuer. C'est très intéressant. Et alors, l'hypothèse que Benjamin cherche de formuler juste dans les dernières pages non, de l'essai, et donc savoir si dans la violence révolutionnaire, disons, une violence destituante, pour se reconnaître une manifestation de la violence divine telle que nous le voyons dans la Bible. Et il énumère nombreuses raisons qui pourront justifier cette hypothèse. Mais enfin, ce qu'il dit vraiment, c'est qu'il est très, très difficile pour nous, les humains, pouvoir reconnaître, avoir le discernement, serait le mot juste, quand cette autre violence pure est présente. C'est-à-dire quand les bras puissants de Dieu sont à l'œuvre dans l'histoire des opprimés. Et ça, c'est l'impasse hier comme aujourd'hui. Donc, Benjamin disait que l'effet d'une insurrection des citoyens doit être le dépassement radical de la loi, non? Et que la décision va penser comme, disons, une impossibilité de revenir en arrière, non? L'impossibilité de la retour à la normale. Non? Mais ils disent encore, on ne s'agit pas d'adhérer à une position, disons, d'anarchisme vulgaire libertarienne, on dirait aujourd'hui, non? La liberté sans forme, disait. Mais de se référer au ordre supérieur de la liberté et de la justice. Ce point, c'est important. Faire une critique de la violence, et donc du pouvoir, de l'État, etc., c'est parler de sens de la liberté, de faire la liberté. Et, assez explicitement, Benjamin nous dit que la liberté et la violence sont dans un rapport d'alternative exactement de la même manière que la justice et les droits. C'est une équation de sorte qu'on ne peut jamais obtenir la première au sens de la liberté supérieure dans la justice par le biais de la seconde. Tout à plus, on peut obtenir une liberté inférieure, sous la loi, non ? Qui n'est pas une vraie liberté, en fin de compte. Et ça, c'est, je pense que c'est quelques, toutes les révolutions du siècle dernier ont prouvé. Enfin, il y a un problème avec les droits. Benjamin a écrit dans une note préparatoire à cet essai et son rapport avec la vengeance, non, la violence, la vengeance. La vengeance comme une forme absolue de justice souveraine qui est une différence au temple et par laquelle on imagine les jugements derniers comme l'accomplissement de toutes les vengeances. Donc, par contre, Bin me oppose à la vengeance le pardon, qui trouve dans le temple la force de lutter contre la vengeance. Il parle, je cite, d'une tonitruante tempête du pardon qui souffle la rafale hurlante avant les jugements qui s'approchent inexorablement. À ma connaissance, aucun commentateur n'a jamais prêté attention que c'est la tempête du pardon semble opposée à la tempête catastrophique du progrès que Benjamin décrit dans sa thèse sur la philosophie de l'histoire à la fin de la vie, non, sous la domination nazie. C'est intéressant. Et je crois que c'est en cela que nous pouvons comprendre l'essence de la justice supérieure, c'est-à-dire qu'elle inclut en elle-même, non, la miséricorde du pardon. Ça, nous devons être réalistes, et notre réalisme veut que demain que les droits que nous devons critiquer doivent être utilisés, évidemment, lorsque c'est nécessaire pour défendre les pauvres et les opprimés. Et on peut penser que dans le même but, défendre les opprimés, parfois c'est nécessaire d'utiliser un certain degré de violence, possiblement sans jamais verser les sangs. Mais en tout cas, Benjamin nous laisse dans une certaine indécidibilité, dans le sens qu'il n'est pas possible de fixer un abstract, une règle morale sur l'usage de la violence. Mais en tant que chrétien, que pourrions-nous dire de cette liberté et justice supérieure? Je pense beaucoup. Et dans le contexte du sermon sur la montagne que nous lisons dans Matthieu, que Jésus dit, car je vous dis que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. Et ensuite, Jésus, on reprend de nombreux cas prévus de la loi et dans un sens radicalement différent. C'est ici que se trouve la fameuse phrase sur l'amour pour l'ennemi. Et donc, d'un côté, Jésus nous invite à regarder notre propre cœur plutôt que l'apparence extérieure de la loi. On dit, bien sûr, tu es mal, c'est la loi, mais c'est tout et ton frère, tu es également un meurtrier. Et d'autre côté, à regarder la loi, le cœur de la loi elle-même, en ce sens, elle accomplit, même lorsque cet accomplissement peut apparaître dans la logique du monde en face de la logique du royaume, comme son renversement. Et donc, double moment destituant, antérieur, extérieur. On ne peut pas être libre pour un seul côté. L'accomplissement, donc, est aussi un dépassement porté par la puissance de la liberté, la liberté de l'esprit. Mais s'agit là, je voudrais dire, d'une décision, d'une rupture qui est faite au-dedans de cette puissance, au corps même de la liberté humaine. Et c'est cette rupture qui peut, ou non, en faire une liberté supérieure. Et il faudrait faire vraiment toute une critique, et une autocritique, je dirais, de l'usage qui vient fait de la notion de puissance. Et vous savez que souvent dans la philosophie contemporaine, disons celle sur la ligne Spinoza-Deleuze, la puissance, la potentia en latin, est toujours présentée en termes absolument positifs. Non? Par contre, le pouvoir, la potestas, non, toujours négatif, évidemment. Mais au-delà de tous les problèmes philosophiques, la puissance est négative, etc., la vraie question, est-ce que vraiment la puissance humaine est toujours incontestablement positive, belle, libératrice? Que les discours sur la puissance, c'est important parce que par la puissance, on se sent non seulement investi de la puissance, mais autorisé, même à utiliser la violence, par exemple. Et je ne pense pas qu'il peut être résolu en la plaçant dans cette sphère autonome, disons, absolument positive. Simplement parce que, justement, la puissance humaine elle-même contient la possibilité de se tourner vers le mal. Et donc la puissance est elle aussi un champ des batailles spirituelles qui produit bien sûr des effets très matériels. Il faut faire un choix avant même de pouvoir lutter dans la liberté, pour la justice, contre un pouvoir oppressif. Si nous pensons à la lettre de Saint Paul, le mot grec qui exprime la puissance, dynamis, va presque toujours avec pneuma, esprit. Et il y a une lutte, des luttes entre les puissances et les esprits, non, entre pneuma tateo, l'esprit de Dieu, et pneuma tacosmo, l'esprit du monde. Et donc, je pense qu'on peut dire avec von Balthasar qui dit la puissance est, d'une manière particulière, l'instance et le champ de la décision et de la décision finale entre Dieu et les démoniaques. Enfin, pour Benjamin, seulement la violence divine est véritablement digne, disons, de souveraineté, qui évidemment est une souveraineté différente de la souveraineté du monde, et que nous pouvons relier à la première phrase du fragment théologico-politique, à savoir que, je cite, « Seul le Messie lui-même accomplit tous les événements historiques. » C'est au sens que lui seul délivre, accomplit, crée les rapports de ces événements au messianique même. Et telle me semble être la vraie réponse à la question que conclut l'essai sur la violence. En fait, souvent, ceux qui prétendent pouvoir faire, disons, un usage révolutionnaire, indiscriminé de la violence, généralement sont les mêmes qui vont dire « Ouais, ça va, le messianisme, c'est très cool, mais il n'y a pas de messie. » Non ? Le messianisme sans messie. Effectivement, c'est une longue histoire, non, le messianisme sans messie. Mais je pense que le messianisme sans messie, le messianisme sans Christ, c'est une des choses plus dangereuses et illusoires. Donc, okay, c'est une vite au nihilisme. Et au même titre, évidemment, qu'un christianisme qui oublie l'essence messianique et devient une bureaucratie du sacré. Donc, au fond, un nihilisme religieux. Or, je voudrais faire un petit exemple pratique en sens chrétien des destitutions. Et nous devons aller évidemment à Saint-Paul. Pas à les lettres très non, fameuses, l'épître romane, non, toutes les quelles qui sont toujours commentées, mais à la plus courte des lettres de Paul, la lettre à Philémon, que je trouve vraiment merveilleuse. C'est le plus court des lettres pauliniennes et je pense que c'est le plus court texte du Nouveau Testament, peut-être de la Bible. Et c'est quel que Paul dit pour renforcer le message. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. Ils sont authentiques. Donc, lettre à Philémon. Philémon est un personnage important de la communauté chrétienne des Colosses. C'est un seigneur, un propriétaire, même d'esclaves. En fait, Paul écrit au sujet d'Onésime, qui est un esclave, un jeune esclave qui s'est échappé de la maison de Philémon, peut-être qu'il a volé quelque chose aussi, et qui a été converti par Paul pendant son emprisonnement. Et il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, les esclaves en fuite étaient punis très durement. À la fois jusqu'à la mort et la mort de croix. En fait, il y avait des révoltes esclaves. Il suffit de penser à la révolte Spartacus, qui cependant s'est terminée avec la crucifixion des milliers d'esclaves. Et je pense qu'à Paul, tout ça est très clair. Et en son, Paul demande à Philémon une charité. C'est-à-dire que lui, Paul, renvoie Onésime à la maison et au nom de l'égalité absolue et fondamentale de tous les filles de Dieu, on se souvient de la lettre Galate, non ? Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, etc. Il accueille Onésime non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Parce que Paul disait, j'aurais pu utiliser mon autorité, je peux commander à Philémon. entente qui non avec l'autorité de faire, mais il fait un choix de non utiliser les pouvoirs non qu'il a. Et Paul s'entend qu'il a peiné à convaincre Onésime à revenir à la maison. Je comprends très bien Onésime, évidemment. Et pourtant, Paul suit extérieurement la loi et renvoie Onésime chez Philémon. Mais il demande, pour la communion en Christ, non, la communion en Christ, de ne pas appliquer la norme, non, de la rendre inopérante. Donc la loi formellement reste intacte, mais est vidée, non? Et je dirais anéantie, non? Par l'amour et la communion. Paul s'adresse directement au cœur de Philémon, non? Lui demandant de destituer son identité et la loi qu'elle porte avec elle, en souvent sa nouvelle forme de vie, non? La nouvelle loi de l'amour qui s'est inscrite dans les cœurs. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est passé après non, avec Onésime, mais il y a une tradition byzantine qui relate que Philémon et Apphia ont été martyrisés ensemble à Onésime. Et cet épisode m'apparaît comme une explication d'un passage qui m'a toujours interpellé de l'épître à Dionysiète, qui est un document non, du deuxième siècle. Quand on dit ils, les chrétiens, obéissant à la loi établie, mais leur manière de vivre l'emporte en perfection sous la loi. Et donc, elle est la fonte de vie évangélique, rien d'autre qui permet de destituer les fondements de la loi, les fondements de la loi qui sont là. Et donc, la charité, l'amour, c'est la puissance non, qui agit à l'intérieur de cette forme. Et c'est cela qui, à mon avis, manque cruellement dans les grands traités philosophico-politiques généralement disponibles. Et si l'amour manque, est très facile, voire c'est sûr, que aussi les pensées de la décision aboutissent au nihilisme. Enfin, Anastasis. Vous attirez justement l'attention sur le sens non, d'Anastasis comme résurrection, insurrection, je dirais, soulevante, c'est plus juste. Et cet homme, Anastasie, j'ai vu qu'il est utilisé seulement une fois dans les Actes des Apôtres. C'est l'épisode où nous voyons Pierre emprisonné par Hérode Agrippa, appelé martyr de Jacques. Et c'est aussi le dernier épisode du cycle de Pierre des Douze. Hein? Il clôt quelque chose, ouvre une autre. Hein? On commence le cycle de Paul. Donc nous voyons Pierre chiller dans la prison avec des groupes de gardes qui se réunissent sur les quatre côtés non, de la cellule qui ressemble à un sépulcre. La seule arme de sa communauté pour la libérer, c'est la prière intense qui montre un aspect fondamental de la koinonia. Non? C'est-à-dire que la prière intense fait partie non, du communisme chrétien. C'est le linto de la forme de vie. Pierre épuisé, non, s'endort profondément, il semble un peu la situation de, comme sur les montes des Oliviers, il semble comme mort. Mais à un certain moment de la nuit, c'est toujours la nuit, donc je pense c'est chez ce, un ange du Seigneur le frappe et Pierre est invité à se réveiller. Egeiren en grec, a dit. Ensuite, l'ange lui dit Anasta entaki. Que normalement on traduit lève-toi vite. Que c'est pas faux, mais peut-être pas très satisfaisant. Que, par exemple, même lorsque Jésus appelle la fille de Jaïr et lui dit en araméen Talita cum, non? Le seul verbe utilisé est egeiro, egeire, en Luc, en Marc, en Matthieu. C'est le verbe utilisé également dans la guérison du paralytique né, mais surtout dans les récits de Marc sur la résurrection de Jésus. Egerte, il est ressuscité. Non? Donc la tradition, proprement, serait se réveiller de la mort, donc ressuscité. Mais l'excédent chrétien, la surabondance, justement, c'est dans l'anastasis. Que, si nous pensons, même Bouddha, on réveillait. ma demeure dans cet état de béatitude. Donc, nous avons, contrairement à la stasis, qui en grec indique la guerre civile, nous avons une anastasis. Et la particule ana en grec indique un mouvement vers le haut. Il faut monter, monter la montagne de la béatitude et aussi le Golgotha. Monter, toujours. L'anastasis, alors, c'est en quelque sorte l'accomplissement vertical de la résurrection, vertical dans le sens d'un approfondissement et une élévation. Et Anastasie est mentionné dans l'épisode de Lazare, non, où Jésus dit « Au futur, Lazare anastasiete, il ressuscitera », mais surtout dit à Martha « Au présent, je suis la résurrection et la vie. Ego emi et Anastasis kai et zoé, résurrection et vie, ou la vraie vie exprimée par le mot zoé, pabios, qui en grec indiquait la vie qualifiée de citoyen de la police, et zoé la vie des esclaves. » Et donc, dans le récit de la résurrection de Jésus, les deux fonds sont utilisés. D'abord Egerte, ensuite Anastasis. Et c'est la même formule utilisée par l'ange pour révéler Pierre. Egeren, mais ensuite il dit, soulève-toi, non, rise up, ressuscite une autre Pierre. Et en fait, Luc, regarde, non, les chaînes lui tombent des mains, non, les chaînes de l'oppression sont brisées. Et alors, lorsqu'il nous semble non pas avoir dessus, lorsque l'oppression est omniprésente et les présentes se mettent en prison, les points de sortie se situent vers le haut, à la verticale. L'anastase est un soulèvement en verticale. De même que la zoé est un avis en verticale, lorsque les bios se scellent en horizontale, éternité et histoire. Mais l'anastase n'est pas possible sans le réveil. Non? C'est-à-dire la réalisation de la vérité. À moi, le réveil nous semble indiquer la salut du passé, non? La rédemption de l'histoire, justement. Parce que l'anastase, le surnom, indique plutôt l'eschaton, non? Le but et la fin. Et la conjonction entre l'un et l'autre, peut-être que sont les enfants, le fait d'être comme les enfants. D'être la tension vivante entre les passés et les futurs. Benjamin disait, dans la collectivité rêveur, l'histoire est perçue comme un continuum qui doit être brisé par ce qu'il appelle une image dialectique, qui est une interruption, une suspension du continuum de l'histoire et qu'il identifie au moment de réveil. Non? Le moment où on n'a plus dans le sommeil, pas encore de la veille, qui est exactement la situation de Pierre après la libération. Le réveil est un mélange donc des souvenirs et d'actualité qui sont fixés dans l'image dialectique en état d'arrêt. Dialectic in stillstand, disait Benjamin. Et, pardon, j'ai trouvé une représentation plastique vraiment super d'une image en état d'arrêt. Dans un évangile apocryphe, le proto-évangile de Jacques. À le moment de la naissance de Jésus, nous voyons Joseph qui sort de la grotte, de la caverne, et s'aperçut que tout est mobile. Les oiseaux dans les cieux, l'eau du rivage est ferme, et les ouvriers sont comme ça, tout pour le moment, non, en état d'arrêt. Et après, non, tout, la vie reprend. Et il me semble vraiment une image très belle. Donc, le réveil, c'est le réveil de la création entière, non, au moment de la naissance de Jésus. C'est la rédemption de l'histoire, non, et l'indication d'un nouveau monde. Et alors, les souvenirs sont rédimé dans le maintenant de l'actualité, non, qui pousse vers la plénitude eschatologique. Benjamin disait, le maintenant de la connaissibilité est l'instant du réveil, donc c'est le maintenant de la vérité. Et le réveil, les gestes qui servent à vaincre les puissances obscures du mythe, qui sont toujours présentes, encore aujourd'hui, non, les fantasmagories qui enchantent l'humanité, mais le maintenant dans un état de narcose, non, Et alors le passé est transfiguré dans le menton de la de Clemenceau, ça dit qu'il est ressuscité de la vérité. Mais il manque encore quelque chose, l'anastase justement. Donc les passages du rêve à la veille, en tant qu'interruption de continu de l'histoire, correspondent à un événement messianique qui brise la prison du présent en destituant tout ce qui n'est pas la vérité et fait venir le royaume. L'anastase contient à la fois les moments destituants et celui instituant. On ne peut plus faire la différence. Résurrection et destitution de la mort et également institution du royaume. Non, c'est le moment dont les buts de la France sont réunis dans les mains du Messie, justement. Le Messie comme un souvenir d'un bonheur retrouvé qui est finalement réalisé pour, avec, en lui. Et donc, la révolution, les révolutions de la décision, effectivement, sont l'humanité rédimée, la création réparée, la béatitude parfaite. Merci.
Voilà, donc tout est parfaitement synchronisé avec la conférence d'à côté. Guillaume est parti chercher un micro pour les questions. Je crois qu'il y avait déjà une question. Est-ce que quelqu'un veut, du coup, peut-être s'approcher pour poser la question ? Et en tout cas, merci à Marcello pour cette conférence.
Oui, merci Marcello. J'ai une question assez... peut-être sur l'origine en fait de toute cette réflexion. Tu as dit que tu avais au début travaillé sur, travaillé sur la période de l'autonomie italienne. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est cet épisode politique dans la en Italie et comment toi tu as été lié à cette histoire et peut-être si c'est pas trop long les liens avec ta foi chrétienne. Voilà, ça fait peut-être ta foi chrétienne. Peut-être que la première question déjà est intéressante pour bien qu'on puisse comprendre aussi le contexte de ton travail.
Bon, alors il faut dire que le livre sur l'autonomie que j'ai écrit, je l'ai écrit en France. Je vivais en France à l'époque et c'était une idée qui est venue en parlant avec des camarades que disons de. Dans la jeunesse, on parlait beaucoup de l'autonomie italienne comme un mythe. Mais effectivement, on ne savait pas trop de l'histoire de l'autonomie. On connaissait plutôt les Brigades Rouges. Et alors, après, effectivement, c'est une histoire même personnelle, parce que j'ai commencé très jeune à faire de la militance, des groupes autonome en Italie. Et disons, je suis passé à travers toute cette histoire. Que dire ? En lien, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a rien qui n'a pas un lien avec. Toute l'histoire que nous avons dite ce soir. Et ce sont à la fois sont des chemins un peu plus périlleuses. En fait, j'ai voulu concentrer l'attention sur la question de la violence, que c'est une question qui a toujours toujours vécu. Je ne sais pas, c'est vous, que quand vous participez à des mouvements, quelque chose, il y a toujours la violence. Quelle relation tu dois avoir? Et pour ça, que j'ai recommencé à réfléchir en cherchant de relire encore une fois Benjamin, justement à la lumière de la foi chrétienne. Et ça m'a aidé un peu à comprendre mieux Benjamin même.
Est-ce que tu peux nous dire, enfin, je reformule un petit peu la question, mais est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ça impliquait pour toi de faire partie. Concrètement, voilà, comment toi, ça, qu'est-ce que ça a impliqué de participer à l'autonomie? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un groupe autonome? Est-ce que c'est des expériences de partage? Enfin, tu vois, qu'est-ce
oui,
que c'est.
Je ne sais pas comment dire. Regarde, au début, effectivement, je suis parti. Descend d'une idée tout à fait chrétienne, descend du communisme, mais à l'époque, je ne trouvais pas des groupes chrétiens qui me semblaient avoir. J'aurais fait quelque chose. Non et j'avais du mal à voir qu'il n'y avait pas vraiment la possibilité dans les groupes chrétiens. Et donc. Sur la charge, je me suis retrouvé dans des groupes autonomes qui me semblaient qu'ils pouvaient faire quelque chose. Tout ça, au début, c'est comme ça. Selon un truc que je. Ça, c'est mon inspirant personnel, évidemment. Que dans le temple, à un certain moment, on semblait comment c'est. Moi, nous, les camarades, avons un peu oublié. Pourquoi nous avons commencé à faire ça? Ok, non. Au début, c'est non, la lutte pour la justice, être avec les pauvres, non, les opprimés. Mais enfin, je me suis un peu rendu compte que me semblait cette situation, non, d'être devenu un peu des professionnels, non, disons, de la révolution, mais avait un peu oublié non, la motivation pour qu'elle a commencé à faire. Et donc, tu commences à ne reconnaître pas plus les pauvres, par exemple. Non à n'avoir aucune relation, effectivement. Non oui, devenir un professionnel de quelque chose est toujours, est toujours quelque chose que ça ne va pas.
Merci. J'ai une question sur. Tu as dit que changer les structures ne modifierait pas les esprits. On le constate tous et je pense qu'on peut être d'accord, mais est-ce que les esprits peuvent transformer les structures? Est-ce que changer l'esprit des gens peut transformer les structures? J'en doute un peu. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut dépasser cette double contradiction autrement que par une conjonction des deux? Ça serait facile de dire qu'il faut à la fois changer les structures et les esprits, mais. Ça, c'est un doux rêve, me semble-t-il. Et est-ce que philosophiquement, on peut dépasser cette contradiction?
En fait, je dis que le défi est justement de penser un type d'action capable de faire en même temps un double mouvement, qui est intérieur, extérieur. Je pense que l'histoire a prouvé que. Non, changer les structures, disons, par exemple, économiques. Tu penses à la révolution russe, non? Par exemple. Et à la fin, quand est fini, tout est fini, l'argent, le peuple, et c'est comme si rien n'était jamais venu. Non, Et donc, c'est on manque ça. Donc, pour ça, je pense que, franchement, sans conversion dans son sens, c'est très difficile. Penser, si nous voulons penser en termes de révolutionnaire, hein, après, on peut faire beaucoup de choses, évidemment. Et pour ça que je dis, il faut être réaliste, donc il faut utiliser. Non, les droits, par exemple, quand il s'agit de défendre les pauvres, utiliser les structures que nous avons, évidemment. Mais penser que tout, tout change, la structure économique ou technique, et ça va changer radicalement le monde, je ne pense pas. Mais je ne pense pas que historiquement, ça n'a pas marché. Et quand je lis l'évangile, mais ça m'a très clair ça, que la première phrase de Jésus à l'évangile de Marc, c'est Non, le temple est accompli. Convertez-vous et croyez à l'évangile. Ça c'est les premières phrases. Donc, c'est les premiers gestes. Non? Ensuite, viennent tous les restes, évidemment, prendre les structures, détruire les structures, je ne sais pas, les structures qui ne sont pas bonnes, on peut aussi détruire, mais avant, il doit être non, une décision antérieure. Et même quand tu prends cette décision, mais comme je disais juste avant, non, dans les temples, il y a le risque non, de se perdre. Non, de perdre la motivation même par laquelle tu fais des choses. Non, tu deviens un bureaucrate, non, bureaucrate de la religion, mais un bureaucrate de la politique, je ne sais pas.
On va procéder à une opération logistique extrêmement importante. Parce que sinon, au bout d'un moment, on ne le verra plus, il sera carrément sous le sol.
Moi, je me posais la question entre cette notion de destitution, c'est-à-dire aussi de changement intérieur. Quel est le lien aussi avec, par exemple, les approches de Ahimsa, donc de non-violence proposées par Gandhi, qui suit une voie assez proche, en fait, de dire le changement extérieur va créer un changement... Enfin, intérieur va créer un changement extérieur, que ces deux voies sont communes. C'est une tradition un peu parallèle, mais qui se base aussi sur le sermon sur la montagne. Est-ce qu'il y a des liens entre les écoles gandhiennes et cette approche de
non, ma, la destitution ma, non, ne, pas encore, mais peut-être que c'est intéressant de faire les liens. Parce que je disais au début que c'est un concept, une idée encore dans sa jeunesse. Non. Il faut travailler encore, c'est ça. Ça serait une piste intéressante, par exemple. Oui, bien sûr.
C'est pas vraiment une question, mais j'aurais aimé peut-être que vous creusiez la réflexion que vous aviez sur perdre son identité à l'appel du Christ, de perdre sa vie pour se destituer soi-même. Et faire advenir quoi d'autre, finalement perdre sa vie pour quel avènement?
C'est une question que c'est...
Oui, du coup, c'est une question.
Bon, de l'évangile, Edith, hein, c'est tu dois avoir la vraie vie, non, la vie éternelle, tu dois perdre ta vie. Non, et bah, quelle vie? Je pense que ça allait de faire tout mon discours sur comment dans l'évangile est dit vie, que en grec il y a trois mots, il y a bios, il y a zoé, il y a psyché. Et généralement quand Jésus a dit perdre, non, la vie, c'est psyché, c'est pas le zoé ou la bios. Et donc, ça serait perdre ton identité existentielle, justement. Non, si nous pensons à des épisodes de l'Évangile, bon, non, à la rencontre entre Jésus et les gens riches, non, et chaque fois, j'ai l'impression que Jésus va lire dans le corps de la personne et trouve exactement les limites, ton limite, non. Chaque personne a son limite, non, qui s'exprime, non, dans son identité existentielle. Et c'est là que Jésus pose la défi. Non, ok, tu sais très, très bien tous les commandements, tous les faits, mais non, vendre toutes choses et bien. Et les gens riches disent non. Vont pas de destituer. Non? Et quand il appelle non, Pierre ou les autres, non, et c'est non, une rupture quasiment totale, non, avec la vie d'avant. Enfin, même si nous voulons suivre dans l'Évangile, j'ai noté que, par exemple, dans les lettres de Pierre, même de Saint Paul, quand on a parlé de la vie avant de la conversion, c'est toujours biosein, non, par exemple, bio, non, toutes les bio, parce que les bios représentaient en grec justement l'identité publique, non, l'identité sociale. Mais ensuite, il s'agit toujours de la zoé, non, zoé aionon, non, la zoé en tant que vie éternelle, que c'est une autre chose. Bien sûr, c'est une décision, c'est une décision très importante que tu dois prendre. Ça, c'est le défi, non, de Jésus. Parce que, il touche beaucoup le fait que Jésus, à chaque personne, non, il dise exactement les points, non, que toi dois dépasser. Non. Viens. Non. Dépasse les limites. Et viens.
Merci hein, pour cette conférence très riche. Moi, je me pose la question. Enfin, j'entends que vous dites que dans toutes les révolutions du passé, les efforts se sont concentrés plutôt sur l'homme extérieur et qu'une véritable révolution, en fait, devrait retourner l'homme intérieur et que donc, toutes les révolutions qui se sont passées n'ont pas été assez profondes. Donc, il faut toucher au fondement et au fondement de l'être humain. Donc, c'est pour ça que vous parlez d'une conversion. Donc, j'entends vraiment le sens spirituel qu'il y a derrière. Mais enfin, ma question, c'est, étant donné qu'une conversion, c'est quand même toujours quelque chose de personnel, comment elle peut se vivre à un niveau politique? Comment tous nous pourrions être convertis pour que cette révolution advienne? Comment cette conversion?
En fait, c'est un autre niveau. C'est, pour moi, c'est la politique vient ensuite. Non, et la politique, sont comme conséquences d'une conversion. Mais la conversion, c'est quoi? Non, changer les regards sur le monde, changer l'esprit, non, changer. Les révolutions du passé, c'est pas qu'elles concentré sur l'homme extérieur, sur les structures, non, par exemple, sur les structures de production, tout ça. Non, okay. On pensait qu'on a produit les forces productives, on a produit l'homme nouveau. Je pense qu'il faut renverser la question et c'est l'homme nouveau qui va produire une nouvelle société. Avec la force de l'esprit, évidemment.
Alors, pour continuer sur cette thématique, du coup, si toutes les révolutions, sauf une, n'ont pas abouti, si ce n'est celle du Christ, et que finalement la conversion est intérieure, et que c'est elle qui change ensuite l'homme extérieur et va provoquer des structures politiques. Enfin, voilà. Est-ce que finalement la seule bonne solution à notre action ne serait pas finalement d'évangéliser, d'aller voir son frère, de lui parler du Christ, tout simplement, et que toute action en fait politique est vouée à l'échec si ce n'est en changeant, provoquant un changement dans le cœur de son voisin.
Oui, je sais pas, évangéliser signifie quelque chose de très vaste, mais il faut commencer à évangéliser moi-même. Et ensuite, non, mais sur la question de révolution, je veux dire un mot vraiment, que je beaucoup. Aimer le fait que il y a Festival des Poussières évangile et révolution, révolution au pluriel. Franchement, je n'en pense, je n'en pense plus que nous avons la révolution. Non, la révolution. Et il y aura des révolutions. Non, nous avons écouté ce matin la question écologique, la question du féminisme, il y a non, plusieurs questions que nous devons chercher de faire entrer en communion, évidemment. Mais la révolution, ce n'est pas notre affaire. C'est justement c'est dans les mains de Messie. La rupture totale de ces bonnes affaires. Et la rupture totale, c'est la rupture eschatologique. Ce n'est pas à nous. Non, continuer à penser la révolution comme quelque chose dans le. Je pense que. Parce que c'est très dangereux de penser comme ça. Mais on pensait non, dans la pluralité des révolutions, même des révolutions tout petites, quotidiennes. Je crois beaucoup dans les quotidiennes. J'ai toujours imaginé non, la question du communisme comme quelque chose de quotidien, pas comme une doctrine. Du futur, quelque chose, non, qu'on garde le futur, les quotidiens. Je voulais dire un truc que j'ai trouvé sur la question du communisme et des communistes. Okay. Si vous avez la patience. Alors, Saint Épître et Saint Paul, mais cette fois, première lettre à Timothée. Paul donne un conseil en parlant de la communauté des Colosses, je cite en grec. Eumatadotos einai koinonikos, qui normalement vient traduit quand il donne, qu'il donne des bons cœurs et sachant partager. Donc, Koinonikos est traduit par en paraphrase. Le sens, certainement, n'est pas faux, mais pourtant, Paul dit « Soyez généreux, non, eumatadotus einai, et soyez des koinonikos », parce qu'il s'agit d'un verbe, mais d'un adjectif dérivé, évidemment, de ce sentier koinonia. Et alors, comment vous le traduiriez? Communiste, communaliste, on parle. Mais ça, c'est l'essence. Soyez, ça, koinonikos. Paul avait une inventivité de la parole vraiment exceptionnelle, mais on peut dire, en fait, koinonikos, c'est génial en tant qu'adjectif. Oui, sachez partager, mais soyez koinonikos, soyez des. Communioniste, si tu veux.
C'est sur la question de la dialectique structure personne. Du coup, je comprends une forme de d'inversion matérialiste, quoi. Je pense que les structures ne structurent pas l'individu, en tout cas ne structurent pas la pensée, ce qui me semble être un peu une forme de marxisme retourné, mais j'ai peut-être pas bien révisé. Mais en fait, pour moi, je suis un peu d'accord, et j'ai le sentiment que c'est une dialectique dépassable, et que, par exemple, le catholicisme cherche à faire, c'est-à-dire que la conversion, elle sort pas de nulle part. Elle est donnée, et en même temps, elle est reçue, quoi. Et elle se reçoit à travers la liturgie, à travers l'Église, à travers les sacrements, et à travers des institutions. Mais donc c'est un peu l'idée de l'institution destituante. Mais en fait, je trouve que dans la réflexion que tu as portée là, me semble un peu factice. C'est pas le bon mot, mais c'est-à-dire qu'en fait, tout est toujours d'une certaine manière institué, et le catholicisme a le grand mérite, à travers beaucoup de démérites, d'être réaliste sur ce que la conversion est, et c'est-à-dire une dynamique. Dynamique, c'est sûrement pas le bon mot en grec, je sais pas. Enfin, bref, en tout cas, quelque chose qui se déploie dans le temps et qui se déploie à travers des moments, des rites qui nous sont donnés et qu'on pratique. Et donc, c'est toujours cette espèce de rapport de... à la fois, c'est une conversion personnelle, c'est un rapport personnel qui nous est donné d'avoir à Dieu, à la révélation, et en même temps, il est toujours médiatisé par des textes, par un apprentissage, par un rite qu'on répète inlassablement, et c'est ça aussi qui nous fait grandir dans cette relation-là. Du coup, pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a une forme de... En fait, je vois pas vraiment de contradiction ou de distinction particulière entre conversion au sens personnel et transformation des structures que j'appellerais révolution. J'ai l'impression qu'il y a une forme de continuum, mais déjà existante. Tu as l'air de dire qu'il faut les inventer, mais j'ai l'impression qu'elles existent déjà et que l'Église en est un des exemples quoi, les plus concrets. Qui n'est sûrement pas sain et parfait, et encore moins révolutionnaire, mais en tout cas qui est une tentative. Quoi.
Non, je suis d'accord. En fait, je dis qu'ils sont des choses à faire en même temps. Et j'ai cité par François, non, sur le fait que chaque réforme commence par soi-même. Et à propos de Pape François, ils disent dans un entretien qu'il a fait pendant les moments plus forts de la pandémie, il dit ça. Nous devons apprendre à vivre dans une église en tension entre le désordre et l'harmonie apportée par l'esprit. Tous les deux, non? Apportés par l'esprit. Soit le désordre que l'esprit. Si vous me demandez un livre de théologie qui pourrait vous aider à comprendre cela, c'est le livre des Actes des Apôtres. Vous y trouverez la manière dont l'Esprit Saint désinstitutionnalise ce qui n'est plus nécessaire et institutionnalise l'avenir de l'Église. C'est ça la définition d'institution destituante. C'est parfait. Après, c'est la potentialité qui existe. Bah, il faut faire. C'est pour ça que je fais toutes les discussions sur la puissance. Non, il faut faire un choix au-dedans de la puissance. Même de l'Église. C'est pas non que par soi le fait que l'Esprit Saint des institutions, il faut écouter, non, il faut faire un choix chaque fois, chaque moment, chaque jour, chaque instant de ta vie, tu dois faire un choix.
Voilà, donc faites ce choix. Et c'est la fin de cette conférence. Merci d'être venu. Et merci encore à Marcello qui nous fait la joie aussi d'être là pendant la durée totale du festival. Donc, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller le voir directement. Merci, à bientôt.